at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait, wait, wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Une Heure et des Pixels, une émission réalisée et produite par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, le plateau est plus réduit que d'habitude car nous sommes toujours en phase de recrutement d'un ou une nouvelle chronique heureuse et que Tizona a été retenue au boulot. Nous lui envoyons tout notre soutien, mais rassurez-vous, elle nous a envoyé un magnéto et cela vous donnera l'occasion d'entendre plus Marion et Maxime qui sont là avec moi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Mais aussi et surtout, cela permettra à notre invité Jean Jouberton de s'exprimer plus longuement.
Salut, bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation.
Salut, et bah du coup Jean, tu es créateur de la chaîne Homo Ludens, fondateur du projet Every Game Museum, et celles et ceux qui nous écoutent depuis plusieurs saisons te connaissent bien car tu as participé à Une Heure et des Pixels de 2020 à 2023.
Oui c'est vrai, ouais, ça fait très plaisir de revenir parmi vous au sein de cette nouvelle équipe, merci beaucoup de m'accueillir.
Et bien du coup il me semble que c'est moi qui m'introduis directement pour la première chronique. C'est l'automne, la saison parfaite pour parler des wholesome games, les jeux vidéo sains, les jeux qui font du bien, des jeux qui promettent de s'évader loin des vicissitudes de la vie dans le capitalisme, loin de la pression, du stress, de la productivité, de l'exploitation. C'est moins un genre qu'un ressenti, un peu fourre-tout, mais on semble s'accorder sur l'absence de compétition, la non-violence et la compassion. Bref, on va se mettre bien. Récolter des carottes et des patates pour se faire une bonne soupe réconfortante, collecter des brindilles pour se faire un joli feu dans la cheminée avec un petit chocolat chaud, ou méditer devant la beauté d'un lac tout en laissant flâner la canne à pêche. C'est bon, vous êtes bien cosy. Cette proposition de jeu, c'est le point de départ que j'ai choisi pour cette chronique, et j'ai découvert que ça rejoint le travail de Resistencia Videoludica, que j'ai découvert la semaine dernière. Resistencia Videoludica, c'est un collectif de Barcelone qui crée des espaces de réflexion critique qui relient les jeux vidéo avec les études interdisciplinaires dans une perspective anticapitaliste. Leur récente présentation à la Gaïa 2025, Gaïa pour Game Arts International Assembly, retraçait leur exploration des wholesome games à travers plusieurs axes. Le travail comme mécanique de jeu, l'extractivisme et le colonialisme, l'antispécisme et les représentations animales, et enfin le soin et la santé mentale. Tout comme LE, je voudrais attirer l'attention sur un point en particulier de ces jeux, la pêche, c'est-à-dire l'activité consistant à capturer des animaux aquatiques munis de branchies dans leur habitat. Le plus souvent, il s'agit de poissons. Mais dis-moi Jamy, c'est quoi un poisson ? Alors, c'est marrant parce que d'un point de vue scientifique, ça veut pas dire grand-chose, puisqu'on les trouve répartis dans deux groupes, qui sont d'un côté les chondrichtiens, qui regroupent des poissons cartilagineux, comme les requins, les raies, et d'un autre, les eutéléostomes, qui regroupent des poissons osseux, comme les thons, les truites, et les grenouilles, les humains, et les pigeons. Vous voyez le problème avec le mot poisson, c'est un peu large. Donc oui, en fait, on peut même se rendre compte que les thons sont plus proches de nous que des requins. Mais bon, admettons son usage courant, les machins dans l'eau avec des nageoires, là. Vous vous dites peut-être, non mais les vrais poissons, ils ont pas mal, sinon ils crieraient. Jusqu'à récemment, c'est ce qu'on se disait, en raison des différences dans le système nerveux. Mais en 2003, Lynn Sneddon publie un article de recherche où des poissons sont soumis à des blessures et conclut qu'ils n'ont pas de simples réactions réflexes, mais bien qu'ils font preuve de comportements anormaux, qui suggèrent l'existence d'une douleur consciente. En résumé, d'après la chercheuse, la neurophysiologie de la souffrance chez les poissons, osseux, est similaire à celle des mammifères. Depuis, de nombreux travaux ont montré qu'ils ressentent des états mentaux subjectifs et que ce qui leur arrive leur importe, qu'ils ont des émotions et des intérêts. Bref, les poissons sont sentients. Et en fait, de la même façon que vous êtes capable d'estimer si une récompense vaut le coup d'une prise de risque, en fonction du niveau de récompense et du niveau de risque, un processus qu'on réalise constamment quand on joue aux jeux vidéo, eh bien les poissons font preuve des mêmes capacités cognitives. C'est marrant parce que la pêche et les jeux vidéo, ça a quand même une longue histoire. Le premier jeu de pêche, c'est juste du texte, dans Gone Fishing en 77. Et le premier jeu avec des visuels arrive en 80, dans Fishing Derby. Mais c'est pas vraiment les jeux dédiés à la pêche qui nous intéressent, mais plutôt les mini-jeux de pêche, dans les jeux dont c'est pas le sujet. On en trouve partout, vous le savez. Même dans les jeux où le lore, les mécaniques n'ont aucun rapport avec la pêche, comme dans Hades. Vous tentez de vous échapper des enfers envers et contre tous ceux qui vous en empêchent, quand soudain, petite pause pour un mini-jeu de pêche. Vous explorez une énième planète dans No Man's Sky, et tout d'un coup, mini-jeu de pêche. Aujourd'hui, c'est devenu un gimmick un peu forceur, comme un passage obligé que partageraient les « vrais jeux vidéo » entre guillemets, et je me suis demandé pourquoi c'est si répandu. Peut-être parce que ça marche bien, en fournissant une respiration dans le gameplay, en ayant à la fois du suspense si le fil se brise, et de la loterie quand on découvre quel poisson on a blessé. on notera la ressemblance avec un Dark Pattern façon loot box. Autre hypothèse, la présence historique du Japon dans l'histoire des jeux vidéo, et où la pêche est un aspect important de la culture insulaire. Mais vous me direz, mais là c'est juste un jeu en fait, c'est pas des vrais poissons. Oui et non. Comme tout média, les jeux vidéo ça véhicule des idées et ça renforce des associations. Ici on associe la pêche à la relaxation. Ça participe à banaliser une pratique cruelle dans une société où le suprémacisme humain nous permet de normaliser une torture. Le jeu vidéo n'est vraiment pas épargné par le spécisme en fait, puisqu'à l'image exacte du vrai monde, le traitement des poissons est aux antipodes de celui des chiens, qui eux ont droit à « Can you pet the dog ?». Je note pourtant qu'on trouve encore dans Hades 2 un mini-jeu de pêche, mais aussi des personnages qui remettent en question la pêche. Et je me demande, si j'étouffe un animal sentient en le sortant de l'eau à l'aide d'un crochet métallique planté dans sa joue, est-ce que c'est vraiment cosy? Et pour qui? Je vois que Maxime a une chose à dire.
Oui, je crois que t'en as pas parlé dans ta chronique, mais moi ça m'a tout de suite fait penser à Animal Crossing. Et bon, ben, c'est vrai que c'est un aspect qui est pas du tout... pas du tout critiqué ou montré dans des jeux, comme tu dis, dans les jeux cosy. Et même dans Animal Crossing, je crois que tu t'occupes de... Tu remets les poissons dans un aquarium, en fait. Bon, d'une certaine manière, c'est pas mieux, quoi. Tu les retires quand même de leur espace de vie sauvage pour les enfermer en captivité dans un aquarium, quoi. Mais oui, c'est vrai que du coup, ça questionne un peu sur pourquoi on... Pourquoi il n'y a pas des jeux qui critiquent la pêche, en fait. Il n'y en a pas beaucoup, des jeux qui critiquent la pêche, mais il y a des... Il y a d'autres jeux qui abordent aussi le monde sous-marin, comme Endless Ocean, par exemple, qui est un jeu de plongée sous-marine, ou Absu, qui sont des jeux où on explore les fonds marins plutôt que de les coloniser ou de les détruire.
Ouais, carrément. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai donc du coup lu pas mal d'articles et vraiment donc plein qui ont aussi noté qu'il y avait un truc intéressant sur le sujet du coup des mini-jeux de pêche, hein, ce gimmick qui revient souvent. Mais en fait, aucune fois il est mentionné du coup le fait que bah en fait les poissons sont quand même des êtres vivants qui sont assez intéressants et assez proches de nous dans leur réaction. Sauf une fois, c'était le game director de Call of the Wild The Angler, qui est vraiment la déclinaison spéciale pêche du jeu de chasse, et qui dit juste en fait les poissons sont des individus sentients et intelligents, mais juste pour dire que en gros bah c'était quand même compliqué de les refaire dans le jeu. Mais c'est tout, c'est la seule chose. Oui Marion.
Oui, merci pour ta chronique. Enfin, je trouve que c'est intéressant parce que souvent, le poisson qui est pêché dans les mini-jeux de pêche ou dans les jeux, il va avoir une valeur qui va être pour le joueur plus utilitaire. C'est-à-dire, je peux cuisiner et manger ce poisson. Enfin, il y a pas mal de jeux d'aventure où on va avoir ce système-là, comme d'autres parties qu'on va récupérer sur des animaux qui vont être tués dans la partie. Ou alors, tout simplement, pour avoir de l'argent qui va permettre ensuite d'acheter quelque chose. Donc, il me semble qu'il y a vraiment un défaut de penser la question de l'animal et du vivant et de la nature, enfin, tout ce que tu amènes à penser, qui est hyper intéressant, pour juste ce côté utilitaire, gagner des PV ou gagner des pièces d'or, quoi.
Oui, effectivement, globalement, les jeux, ils sortent de notre société, donc effectivement, comme dans notre société, les animaux, très globalement, sont des ressources économiques, enfin, en tout cas des produits, et les poissons sont vraiment encore plus oubliés, parce qu'effectivement, un poisson ne crie pas, un poisson ressemble assez peu dans les signaux qu'il pourrait envoyer par rapport à ce qu'on a l'habitude de signal de douleur, de... ce genre de choses. Donc effectivement, ils sont très oubliés dans ces questions-là. Mais effectivement, n'importe quel animal, comme je disais déjà, on chasse des tapirs pour se faire un sac à grenades, c'est le classique, quoi. C'est maintenant Marion qui va nous parler du jeu Scabma Snowfall. On t'écoute, Marion.
Merci. Donc effectivement, aujourd'hui dans ma chronique, je vais vous parler de Lucas, tout d'abord, avant de vous parler du jeu. Lucas, c'est un garçon de 10 ans qui vient de rentrer au collège quand je le rencontre. Et il fait, pour aller vite, un peu n'importe quoi dans son établissement scolaire, un peu n'importe quoi à la maison. Il se met en danger régulièrement, il fugue très souvent dans la ville. C'est un enfant qui est en grande difficulté, à la fois au niveau familial et scolaire. Il est, de façon globale, très en attente d'attention de sa famille et tout particulièrement de son père. À la maison, il y a souvent des conflits, des insultes, des menaces. Bref, une ambiance qui est plus qu'électrique. Lucas joue aux jeux vidéo à la maison, il a une console, mais finalement, dans ce que j'en comprends, il ne joue pas vraiment. Il crie, il tape dans son canapé, même s'il me précise qu'il n'a jamais cassé de manette. Bon, je sais pas si ça doit être rassurant. Quand il vient consulter, il a pas trop envie d'être là. Vous comprenez bien que vu la situation, il est obligé hein, de venir consulter. Il a pas trop envie de parler de lui. Et c'est pour ça que je vais utiliser un jeu vidéo comme médiation, dans l'intention de lui proposer, parmi les cris et l'énervement qu'il rencontre au quotidien, un peu de douceur et de tranquillité. Je sélectionne alors plusieurs jeux, plutôt narratifs, et je lui propose de regarder les trailers. Ce sont des jeux qu'il ne connaît pas. Et à partir de ça, de la façon dont les jeux vont se présenter, Lucas va choisir le jeu Scabma, car il lui semble contenir beaucoup d'histoires et apparaître assez réaliste. Et il a bien raison, car dans ce jeu, Scabma Snowfall, du studio finlandais Red Stage Entertainment, on découvre les mythes et légendes du peuple Samis, qui est, alors je découvrais en même temps que lui, un peuple autochtone d'une zone qui couvre le nord de la Finlande, de la Suède, de la Norvège et la Laponie. Donc un peuple qu'on ne connaît pas vraiment. Lucas va jouer Aïlou, un jeune gardien de rennes du peuple Samis, qui est en réalité un orphelin qui a été adopté par la famille de son oncle. Sa vie va se transformer le jour où il s'endort pendant qu'il est au travail en train de garder ses rennes. C'est un garçon qui ne cherche pas vraiment l'aventure, qui d'habitude l'évite même autant que possible, mais en partant à la recherche de son renne égaré, pas trop le choix pour éviter le courroux de son oncle, Aïlou trouve le tambour d'un noadi. Alors les noadi, j'imagine que vous ne savez pas trop ce que c'est, ce sont les guérisseurs et voyants Samis, qui sont souvent guidés par des esprits familiers qui s'appellent Saïva et Ali. Il va donc trouver ce tambour, et lorsque son village sera menacé par un étrange désordre, bien sûr on est toujours dans la configuration comme dans les contes, hein, il y a une menace qui arrive, qui infecte tout sur son passage, la maladie envahit le village, et Aïlou va partir à la recherche des esprits de la nature pour combattre ce qui ravage la terre. Il va parcourir le monde pour y découvrir les esprits qui lui ouvrent de nouveaux pouvoirs et de nouvelles possibilités d'exploration. En effet, le jeune Aïlou n'est pas encore assez fort pour avoir tous les pouvoirs des Noadi. Par exemple, au niveau du gameplay, Aïlou peut arrêter les ennemis dans un temps limité, mais ses effets ne vont pas être permanents. Quand le jeu démarre, directement, on a le petit début hein, où on comprend qu'Aïlou garde les rênes et qu'il y en a un qui s'échappe. Lucas va se projeter et penser, dans un scénario qui est très familial, qu'il va devoir retrouver la mère du renne. Bon, en fait, l'histoire, c'est pas du tout ça, mais il se laisse prendre par le jeu, il se laisse prendre par l'histoire, mais aussi la sensorialité du jeu. Il va dire, par exemple, à certains moments, qu'il a le vertige en étant sur les falaises. Il se demande ce qui explique certains événements du jeu. Au départ, par exemple, pour ne pas spoiler, si vous ne connaissez pas ce jeu, on voit une explosion, il se demande ce qui se passe, qu'est-ce qui vient d'arriver, est-ce que c'est une pluie de météorites. Ensuite, quand il a perdu le renne, lui qui est sur la falaise avec son vertige, il se demande si le renne est tombé de la falaise. Il se demande bien évidemment s'il est toujours vivant ou s'il est mort. Et il va s'interroger sur sa responsabilité et sa culpabilité dans le déroulement de l'histoire. Est-ce que c'est de sa faute ou pas? Et s'il ne s'était pas endormi, qu'est-ce qui serait passé? On est bien d'accord que le fait que Aïlou s'endorme, ça fait partie du gameplay, ça fait partie du jeu. Hein. Mais ces questions, bien évidemment, font écho à l'histoire de Lucas, font écho à son histoire personnelle, et il va beaucoup pouvoir parler. Est-ce qu'il mérite ce qui lui arrive dans sa famille? Est-ce qu'il mérite tout cet énervement, toutes ces tensions à la maison? Est-ce qu'il mérite de se sentir un peu à l'écart de sa famille? Face au gameplay, Lucas est séduit par le tambour de l'esprit magique. Donc ce tambour, on va le récupérer très rapidement hein, dans le jeu. Il va trouver ça super stylé. C'est normal, Lucas il a 10 ans, donc il trouve un peu tout super stylé. Ce tambour magique, il est quand même super stylé. Dans une forme d'harmonie, il va entrer en résonance avec la nature. Et il peut révéler le monde invisible dès qu'on en joue. Donc on voit apparaître effectivement sur l'écran pas mal de choses à partir du moment où on est en train d'activer, de faire battre ce tambour. Dans le monde Samis, tout possède un esprit. Et le tambour, ce Goavdis, c'est son nom en Samis, sert à communiquer avec les esprits pour des conseils, des connexions avec les éléments de la nature et des voyages spirituels. Lucas, pendant tout le jeu, pendant toutes les séances où on utilisera ce jeu, n'arrêtera pas d'appuyer sur le bouton qui lui permet de faire battre le tambour. De mon côté, j'ai l'impression que ce fond sonore que crée le tambour lui permet de ressentir une forme d'apaisement, quasi de relaxation, cependant active puisqu'il est quand même en train de jouer, en train de balader son personnage, d'explorer. Les battements entêtants du tambour, imaginez, hein, tout le temps, boum, 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 tels les battements du cœur, ou une sorte de berceuse à laquelle on s'habitue tous les deux, se mêlent aux musiques de fond. Cela l'amène, en utilisant le tambour pour faire apparaître des traces de pas qui le guident, à voyager physiquement dans le jeu, mais aussi psychiquement à rêver. Alors que Lucas cumule des exclusions au collège, des sanctions familiales, des violences dont il est victime ou auteur, les consultations avec le jeu Skadma lui permettront de trouver un temps de pause et de sérénité dans ce monde nordique. Dans cet espace de jeu, Lucas, qui lui n'a pas envie de venir parler, qui veut qu'on arrête de lui poser des questions, c'est tout le temps ce qu'il répète, mais on peut se dire que c'est parce que c'est trop douloureux pour lui de penser ce qui lui arrive, il arrive à verbaliser certaines de ses émotions, même s'il est toujours dans un refus de me parler, et il me dit « je me parle à voix haute ». Il répète tout le temps ça. Donc pendant qu'il est en train de jouer, il se parle à voix haute, bien sûr. Moi, j'écoute bien ce qu'il dit. Ce qui se passe n'est pas sans écho avec le souhait des concepteurs du jeu pour les jeunes Samis à qui ils dédicacent leurs jeux vidéo, pour, disent-ils, aider à maintenir leur culture en vie, en être fiers et vivre sans la honte que les générations précédentes ont dû endurer. Ils souhaitent que cette nouvelle génération ose l'audace et crée une nouvelle culture Sami, par exemple en la faisant passer par les jeux, les bandes dessinées, les séries télé, les dessins animés, etc., pour se réapproprier cette culture et la renouveler à sa façon. Pas étonnant donc que ce jeune Lucas, perdu dans l'entrée d'adolescence et perdu dans ses liens familiaux, ait senti dans mes propositions de jeu qu'il fallait qu'il choisisse ce jeu-là. Et je finirai en disant que nous avons aussi passé du temps sur le site du jeu qui propose tout un glossaire et des éléments de connaissance du peuple Samis, donnant accès au quatrième mur dans un au-delà du jeu. Et je vous remercie pour votre écoute.
Eh ben merci du coup Marion, c'était super intéressant comme témoignage. On va passer à la première pause musicale avec Pearl Blue Soul, composé par Hiroshi Okubo pour l'OST de Ridge Racer Type 4. Vous écoutez Une Heure et des Pixels sur Radio Campus Paris et tout de suite, l'entretien avec Jean.
Bonjour Jean, alors Gomessa justement t'avais introduit en début d'émission. Pour rappel, tu es notamment en charge de plusieurs projets comme la chaîne YouTube Homo Ludens ou encore ton site internet Every Game a Museum, avec un leitmotiv qui est celui de l'art, enfin de l'histoire de l'art, dans le jeu vidéo. Mais avant de revenir plus en détail sur ces projets, je voulais te poser une première question. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et surtout sur ta passion pour le jeu vidéo et celle de l'histoire de l'art et comment ces deux passions se sont entremêlées ?
Oui, bonsoir Maxime. Merci encore de m'accueillir dans cet épisode d'Une Heure et des Pixels. Pour ce qui est de cette première question, alors partons sur le jeu vidéo d'abord. C'est quelque chose que j'ai commencé assez jeune dans une logique assez classique de transmission père-fils. Mon père était assez curieux du jeu vidéo, même si c'est pas tout à fait sa génération. Il avait fait l'acquisition d'une Mega Drive quand j'étais gamin et il avait aussi un intérêt assez marqué pour les jeux d'aventure type point and click. Même encore aujourd'hui, il ne jure que par Myst et Riven. Et du coup, j'aimais beaucoup quand j'étais tout petit le regarder jouer. Et petit à petit, de là, c'est formé un intérêt, moi aussi, pour le jeu vidéo. Je suis parti vers des titres et des genres un peu plus mainstream avec l'adolescence, où j'ai beaucoup joué aux jeux multijoueurs type Counter-Strike, World of Warcraft et Halo aussi sur Xbox. Et par la suite, ma pratique jeu vidéo s'est pas mal ralentie avec mes études. Études qui, elles, du coup, ont concerné l'histoire de l'art, puisque j'ai fait après une ou deux années en lettres. Je suis parti à l'école du Louvre, à Paris, où j'ai entamé un long cursus donc consacré à l'histoire de l'art, et pendant lequel, au moins les 5 premières années, j'ai très peu joué, parce que je travaillais quand même pas mal. Et ensuite, J'ai repris ensuite ma pratique du jeu vidéo de manière assez régulière, disons, au milieu des années 2010, je dirais, quelque chose comme ça. Entre 2010 et 2015 à peu près. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que justement les deux, à savoir jeu vidéo et histoire de l'art, sont un petit peu entremêlés, puisqu'en redécouvrant, enfin, ou en découvrant des jeux, notamment de cette époque-là, j'ai pu constater la présence d'œuvres d'art ou de vestiges archéologiques que j'avais pu étudier en cours. Et ça m'a surpris, j'ai trouvé ça très amusant, en fait, de voir comme ça, dans un univers entièrement, plus ou moins fictif, des citations d'œuvres ou de vestiges. Et je me souviens très bien, je pense que les deux pivots, ça a été, je pense, The Walking Dead, la première saison de The Walking Dead en 2012, et le reboot de Tomb Raider en 2013, dans lesquels j'ai trouvé des citations d'œuvres d'art dans The Walking Dead. Il y a plusieurs petites œuvres, notamment de Rembrandt, mais c'est surtout une toile du Caravage qui est présente dans The Walking Dead, le Judith des Capitaines Holofernes, j'ai trouvé ça très surprenant de trouver cette œuvre dans une ferme perdue, je sais plus où ils sont dans le jeu, dans le Kansas, hein, bref, je trouve ça curieux. Et dans Tomb Raider, vu qu'il se passe ce Tomb Raider, ce reboot sur une île perdue au large du Japon, et qui a vu passer pas mal de commerçants, de voyageurs un peu de toute la région, il y a des vestiges archéologiques de pas mal de régions avoisinantes, et je suis tombé notamment sur un vase néolithique chinois qui était véridique. Alors c'est pas une citation directe, mais c'est très très fortement inspiré de véritables vases néolithiques chinois, et en les voyant, ça m'a saisi. Je me suis dit oh ouais, ils ont bien bossé leur documentation, et les artefacts qu'on découvre dans le jeu sont tiennent vraiment la route, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que, à partir de là, je me suis lancé un petit peu dans l'exploration de ces liens entre jeux vidéo et histoire de l'art.
Donc justement, c'est quelque chose que tu as pris très au sérieux, puisque au final, tu as décidé de me donner une forme finalement à ce travail de citation et de découverte des œuvres dans le jeu vidéo. Donc tu as créé un site qui s'appelle Every Game a Museum. Est-ce que tu peux, on l'a un peu compris, mais est-ce que tu peux nous dire comment cette idée-là en particulier d'un site internet t'est venue, et quel était l'objectif initial, est-ce qu'il a changé Voilà, enfin, pourquoi cette citation des œuvres et pourquoi de cette manière-là?
Alors, dans sa forme actuelle, parce qu'en effet, le projet a un petit peu, il y a une petite genèse au projet. Dans sa forme actuelle, en tout cas, actuellement, Every Game Museum, c'est un projet de référencement, en fait, tout simplement, des citations d'œuvres d'art, du coup, authentiques, dans les univers de jeux vidéo. Quand j'entends œuvres d'art, c'est essentiellement des tableaux. Tableaux, peintures, fresques aussi, enfin peu importe, les arts les arts de la peinture, certains dessins aussi, de la sculpture un petit peu aussi, parce qu'il y a pas mal de sculptures qui sont citées également. Et alors, à l'origine, c'est venu. La première chose que je me suis dite en croisant du coup ces œuvres dans les jeux, je me suis surtout arrêté sur celles qui du coup avaient une portée, disons, narrative ou symbolique, métaphorique par rapport au récit que le jeu qui les citait pouvait développer. Et je m'en suis servi, alors du coup j'en ai trouvé quelques-unes, il y en a assez peu en fait des œuvres qui permettent de développer un discours ou une analyse sur un quart d'heure, 20 minutes, et en fait je m'en suis servi de ces œuvres-là pour faire des petites vidéos. Voilà, c'est le projet du coup Homo Ludens, qui était très inspiré, on va pas se mentir, par les chaînes de vulgarisation jeux vidéo sur YouTube, Game Next Door en tête, parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, et du coup je me suis dit que oh là là, j'aimerais bien faire pareil, et donc du coup ma petite plus-value, disons, que c'était ces connaissances en histoire de l'art et cet œil qui me permettait de repérer ces citations, et petit à petit j'ai aussi systématisé un peu ma collecte des œuvres croisées dans les jeux. Et alors que le projet Homo Ludens a un peu décliné, disons, parce que j'avais peu de sujets sur la peinture à développer. Donc j'ai fait des petits écarts. J'ai pas forcément parlé que de peinture dans les vidéos d'Homo Ludens, mais c'était quand même le cœur de ma ligne édito, disons. Du coup, pendant que ce projet décline un petit peu, parce que je manquais de sujets, puisque aussi je peine beaucoup à faire des vidéos, c'est pas mon métier, je suis pas monteur, et j'ai appris sur le tas, mais bref, ça restait très laborieux pour moi de faire des vidéos. Pour l'instant, c'est un peu en pause d'ailleurs, Homo Ludens, hein, pour tout te dire, mais pendant que ce projet donc déclinait, je reviens sur cette phrase, j'ai eu une autre idée du coup pour rentabiliser du coup, disons, entre guillemets, toutes ces captures d'écran que je prenais dans les jeux. J'ai fait un compte Twitter d'abord, que j'ai appelé dans un premier temps quelque chose comme Classical Arts in Video Games, mais je me suis rendu compte qu'en anglais en fait c'était une mauvaise idée, parce que Classical Arts en anglais ça désigne surtout l'art l'histoire de l'art de la période antique. Moi je voulais parler vraiment de périodes beaucoup plus récentes, donc du coup j'ai changé ce nom en Every Game Museum. Ce qui m'a inspiré pour lancer ça, c'est un petit compte Twitter lancé par Fanny Robillard qui est chercheuse en ludomusicologie et qui est d'ailleurs passée par l'émission Une heure et des pixels. Et elle avait lancé un petit compte Twitter dont j'ai oublié le nom, mais dans lequel elle présentait des jeux dans lesquels les instruments de musique, vu qu'elle était toujours spéciale, enfin elle parlait presque que de musique de jeux vidéo et dans les jeux vidéo sur Twitter. Elle présentait des instruments de musique qui étaient utilisés comme des armes dans les jeux, et comment voilà, ça parlait de musique, tout ça. Et je me suis dit, ah mais c'est vachement chouette ce qu'elle fait, ce côté un petit peu, du coup voilà, référencement, liste de jeux avec des instruments de musique qui servent d'armes. Je peux faire pareil avec les peintures. Et donc j'ai lancé un compte Twitter où je faisais un post par semaine, comme ça, avec une citation par semaine. J'ai fait ça, je sais plus, deux ans, trois ans, je sais plus. Et petit à petit, je me suis donné des contraintes un peu handicapantes, dans le sens où je me suis dit que à chaque poste, je voulais faire un jeu différent et surtout une œuvre différente. Donc encore Love ça passe, mais le jeu c'était embêtant parce que parfois il y a des jeux dans lesquels je pouvais avoir soit je pouvais trouver 60 citations d'œuvres différentes, ce qui fait qu'en faisant un post sur une seule œuvre, je me forçais à laisser de côté 59 autres œuvres que je pourrais pas utiliser via le compte Twitter. Donc c'est quand j'ai constaté que du coup je laissais beaucoup de choses de côté que je montrais pas aux gens, je me suis dit je vais lancer un projet peut-être plus global de référencement pour pouvoir du coup exploiter toutes ces images et toutes ces données. Et donc ça a donné le projet du site Evergame Museum qui a eu un an il n'y a pas très longtemps là, à la rentrée dernière. Et voilà, je me suis bien sûr pour le côté technique, je ne sais pas aligner deux lignes de code, il faut le savoir. C'est un ami à moi qui est développeur web qui m'a aidé. On mène ce projet à deux, lui sur la technique et moi sur le côté contenu. Voilà.
Ok, et justement tu disais il faut que tu puisses choisir les jeux que tu vas explorer. Donc comment tu procèdes à ce niveau-là? Parce que bon, il y a une infinité de jeux, hein. C'est difficile de se rendre compte au préalable où est-ce qu'on va y trouver parce qu'on va pas forcément trouver des œuvres dans tous les jeux, mais alors toi, personnellement, comment tu fais pour choisir? Et ensuite, est-ce que ça change aussi ta façon de jouer? Est-ce que tu joues différemment? Et globalement, c'est quoi ta méthodologie, en fait, pour collecter les œuvres?
C'est une bonne question. Alors au début, quand j'avais pas, quand je ne collectais pas systématiquement la moindre œuvre que je pouvais croiser, je choisissais pas vraiment les jeux en fait. Je jouais aux jeux que j'avais envie de jouer, et quand je croisais une œuvre, je disais il y a telle œuvre, c'est rigolo. Et même parfois, je ne prenais pas de capture d'écran. Quand je trouvais l'œuvre justement pas assez intéressante dans son contexte, si jamais elle avait pas j'avais pas l'impression qu'elle avait une portée, symbolique ou métaphorique. Je laissais de côté, je m'en étonnais un peu, je tournais autour, je la regardais deux minutes et puis je partais, je prenais pas forcément de capture d'écran. Donc je choisissais pas les jeux, c'était au fur et à mesure de mes pérégrinations vidéoludiques, ça se faisait un peu par hasard. Petit à petit, du coup, j'ai commencé à collecter systématiquement toutes les œuvres que je pouvais voir. Par conséquence, j'ai commencé à un peu organiser aussi mon activité de joueur. C'est vrai que je continue de jouer à des jeux sans aller y chercher des œuvres, mais j'ai tendance aussi à un petit peu regarder ce qui sort comme type de jeu pour voir quels jeux potentiellement peuvent renfermer des citations. Le choix des jeux, c'est assez simple pour voir si jamais il y a des citations. Généralement, je scanne un petit peu le sujet du jeu, son ambiance. Typiquement, les jeux d'horreur, c'est des bons clients hein, plutôt pour ça. Donc, le vieux manoir, hanté, etc. Généralement, ça loupe pas, il y a souvent des citations. Sinon, je peux aussi sélectionner par développeur. Typiquement Bluebird Team par exemple, bon, qui font aussi du coup pas mal des choses assez versées dans l'horreur. Bluebird Team, ils aiment bien citer des œuvres, donc il y en a dans quasiment tous leurs jeux. Par licence également, typiquement les Resident Evil, ça rate pas, il y a toujours des citations d'œuvres d'art dans quasiment tous les épisodes de la série. Et là maintenant je suis devenu fan de la série, alors même que j'aimais pas trop les jeux d'horreur à l'origine, mais vu que je les ai quasiment tous faits pour les trouver des peintures, j'ai commencé à beaucoup apprécier, et j'attends le 8 avec impatience, et je peux mettre ma main à couper qu'il y aura des œuvres dans le Requiem. Ouais, voilà, exactement.
Et le 9e épisode.
Donc voilà, je procède un peu comme ça maintenant pour sélectionner mes jeux. Et une étape qui vient avant celle de jouer au jeu, c'est très souvent ce que je fais, c'est que je vais chercher une confirmation de la présence d'œufs en regardant des let's play sur YouTube. Je prends un let's play total du jeu, et je passe grâce à l'outil de prévisualisation des images, quand on passe la souris sur la timeline de la vidéo, il y a la petite vignette qui apparaît, et en fait j'essaie de repérer les espaces d'intérieur, leur décor vite fait, et je clique un peu en divers endroits de la vidéo, et à partir du moment où je trouve une citation d'œuvre, je me dis ok, ça veut dire qu'il y en a potentiellement d'autres, et donc je me lance dans le jeu à partir de ce moment-là. Mais ça, après, voilà, je continue de jouer à des choses qui me font plaisir aussi, hein, j'y vais pas que pour la science, entre guillemets, mais même en me faisant plaisir, je continue de trouver des œuvres par inadvertance. Récemment, j'ai fait le Chronos The New Dawn de Bluebird Team, j'y allais parce que ça me tentait bien, j'étais pas très surpris, mais j'ai fini par tomber sur pas mal de citations de peinture, par exemple, et voilà, alors que j'y allais pas pour ça à l'origine. Et en ce qui concerne ma manière de jouer, c'est vrai qu'elle a pas mal... Elle a pas mal changé. Dans les jeux où il y a des citations, ça j'ai tendance à scruter beaucoup les décors, les niveaux. Je farfouille partout à partir du moment où je sais qu'il peut y avoir potentiellement des œuvres. Et donc je pense que mon attitude en jeu est pas... Elle est très très biaisée. La façon dont je rentre dans une pièce, dont je vais jamais tout de suite aller voir le point d'intérêt ou le voilà, je vais d'abord explorer toute la salle, scanner toutes les choses qui peuvent être accrochées au mur. Enfin voilà, je vais vraiment ça va vraiment prendre pas mal de temps. Il y a pas mal de temps en jeu aussi consacré du coup à la prise de capture d'écran. C'est sur des jeux, il y a des modes photo, je peux passer un peu de temps dans les modes photo, mais aussi sinon dans les jeux, il y a pas je vais rentrer et sortir des options en permanence pour par exemple couper la TH pour qu'il y ait, disons, épurer un petit peu l'image. Et ça peut me prendre pas mal de temps, c'est assez fastidieux aussi de rentrer et sortir des options en permanence pour couper le HUD. Mais donc là, voilà, ça fait que parfois j'ai un temps de jeu qui va vraiment être décuplé, j'exagérerais, mais en tout cas voilà, qui va se dilater beaucoup par rapport à un temps moyen de jeu sur un titre donné. Mais parfois, plus rarement, mais parfois ça va être l'inverse. Je vais compresser le temps de jeu classique, soit en speedrunnant jusqu'au point où je sais qu'il va y avoir des œuvres. Ce que j'ai fait sur Red Dead 2, par exemple, quand j'ai fait une vidéo sur une petite exposition de peinture qu'il y a dans la grosse ville du jeu, dont j'ai oublié le nom. Mais en fait, voilà, il y a une petite exposition de peinture que je trouvais vraiment très intéressante et je voulais vraiment l'analyser, donc j'ai vraiment speedé le jeu jusqu'à ce moment-là, en squeezant tous les dialogues, toutes les quêtes secondaires. J'ai vraiment, voilà, je me suis concentré quasiment exclusivement sur l'avancée dans l'histoire pour pouvoir enfin atteindre cet endroit-là. Et maintenant aussi, ce que je peux faire, parce que j'ai découvert ça il y a un an ou deux, je dirais, avec beaucoup de retard, c'est l'utilisation des fichiers de sauvegarde. En fait, j'ai découvert les sites communautaires de partage de fichiers de sauvegarde. Et c'est absolument merveilleux. Quand je sais que, quand j'arrive à repérer dans un jeu un endroit spécifique où il y a des œuvres, alors que tout le reste du jeu en est dénué, je télécharge des sauvegardes du jeu, avec des sauvegardes par chapitre ou des trucs comme ça, pour directement me rendre à cet endroit-là sans avoir à me taper, je sais pas, 15 heures de jeu par exemple. Et voilà, et en somme, et la fin de la méthodologie, la fin du. Pour conclure rapidement, la fin du process, c'est. Après toutes la prise de capture d'écran, c'est un peu catalogage et identification des œuvres. Avant, sans même parler de les uploader sur Evergame Museum, c'est quelque chose que je fais en amont et c'est déjà classé dans mes dossiers de sauvegarde. J'essaie vraiment de faire ça tout de suite après avoir fini le jeu. Et aussi de se préciser dans les captures d'écran, c'est quelque chose que j'ai pas fait. Je le fais que depuis un an, je dirais à peu près, de vraiment spécifier à quel endroit dans le jeu a été pris la capture d'écran. Si c'est, je sais pas, tel niveau, tel passage, etc. Parce que je pense que à terme, ça peut être intéressant pour comprendre la place la place de certaines œuvres, si jamais elles se situent à un endroit plutôt qu'à un autre. C'est loin d'être anodin généralement. Et sur le coup, je m'en rends compte souvent. Mais le problème, c'est que parfois, je reviens sur ces données des mois, voire des années après, parce que ça fait 4-5 ans maintenant, 5 ans, je dirais, que je fais ça. Et voilà, maintenant, quand je rouvre des dossiers de jeu où j'ai pas du tout noté à quel chapitre, dans quel lieu une capture d'écran se place, ça limite un petit peu mes réflexions, donc il y a certainement des jeux qu'il faudrait que je refasse pour ça. Mais du coup, voilà, bref, identification et catalogage en fin de process, ça peut prendre aussi un petit peu de temps, notamment dans des jeux où les œuvres d'art subissent des modifications dues à la direction artistique, lorsque c'est un jeu, par exemple, en pixel art, mais qu'on se rend compte que c'est une citation, Pour l'identifier, ça peut être un peu compliqué, sachant que là, en dernier recours, généralement, j'essaie de faire sans ça, parce que ça m'amuse aussi d'identifier les œuvres et d'aller les chercher, d'explorer, suivant ce que je connais de l'histoire de l'art, essayer d'avoir un peu l'œil, un œil de ce qu'on appelle de connoisseur en histoire de l'art, c'est-à-dire d'arriver à identifier suivant le style, l'iconographie, en gros, à quelle époque ça a été fait et dans quel pays ça a été fait. C'est un petit jeu avec moi-même. Mais quand j'y arrive pas, vraiment, quand je peine, et que l'œuvre d'art est citée telle quelle dans un jeu, bah je découpe la capture d'écran, je la mets dans un moteur de recherche d'identification d'images inversées, et généralement les résultats tombent assez vite. Mais dans les jeux avec des directions artistiques qui viennent malmener un petit peu l'image de l'œuvre, là ça devient très très compliqué, et les œuvres par exemple de Signalis, c'est ma plus belle... C'est mon plus bel accomplissement. Alors certes, on connaît beaucoup, il y a l'île des morts de Böcklin qui est vraiment au cœur du jeu dans Signalis, qui est montré plein de fois, sous plein d'angles différents, etc.
Est-ce que c'est l'œuvre identique ou elle est un peu transformée ?
Non, bah là pour le coup, l'île des morts, elle est très identifiable. Elle est transformée, je crois, à un moment dans le jeu, mais sinon on la voit à plein de reprises, en grand, en petit, etc. Et celle-là, pour le coup, bon, tout le monde l'a repérée, mais il y a plein d'autres œuvres qu'on voit juste en petit, en pixelisé, etc., qu'on voit jamais en grand et qui sont difficiles à... Même l'image même des œuvres est assez difficile à discerner, mais ce sont toutes de vraies œuvres, ce sont toutes des citations dans Signalis. J'ai mis beaucoup de temps à trouver de quelles œuvres il s'agissait. Et je pense je me suis toujours dit que j'allais faire un jour un petit papier ou une petite vidéo sur les œuvres de Signalis, mais ça me demanderait beaucoup de travail et je me suis pas encore attelé. Mais là, voilà, quand j'ai enfin réussi à déterminer quelles étaient ces œuvres-là. Là, j'ai dû faire ça moi-même tout seul en parcourant des pages et des pages de collections de musées. J'ai pas pu faire autrement parce que la recherche d'images inversées là n'avait pas fonctionné, en tout cas à l'époque, avec ces images pixelisées. Pardon, je me suis un petit peu étendu sur l'aspect identification.
Pas de problème. C'est bien d'entrer dans les détails. Mais justement, tu disais que tu reconnaissais souvent les œuvres que tu voyais dans les jeux, parce que tu les avais étudiés et parce que tu t'intéresses à l'art en général. Mais est-ce que ça t'arrive parfois de découvrir de nouveaux tableaux, de nouvelles peintures? Ou alors est-ce que tu penses que les développeurs utilisent très souvent des œuvres connues? Et s'ils le font, pourquoi, à ton avis, ils utilisent principalement des œuvres populaires?
Alors, non, moi je découvre plein de nouvelles œuvres, hein, très honnêtement, je découvre plein. C'est juste que, en fait, il y a... Ça va être nul comme phrase, mais ça se voit quand une œuvre est vraie dans un jeu. Ça se voit vraiment parce que le niveau de détail et d'une véritable peinture, lorsqu'il s'agit d'une peinture en tout cas vraiment figurative, et disons classique, entre guillemets, comprendre de l'époque moderne, quoi, de la Renaissance au 19e, enfin, vraiment, ça, quand une vraie œuvre est utilisée, elle ressort vraiment. Ça se voit par rapport aux œuvres. Dans un jeu où il y a des œuvres citées, donc des vraies œuvres, et des œuvres fictives, donc composées par les devs, la différence saute vraiment aux yeux. Pas en termes de qualité, c'est pas forcément que les... Enfin, ça n'a rien à voir avec la qualité, les œuvres fictives créées par des concept artistes, etc., peuvent être absolument sublimes, mais ça se sent qu'elles sont réalisées à notre époque, voilà. Alors que, voilà, il y a... Donc moi, je reconnais pas spécifiquement chaque œuvre, je reconnais celles que je connais, les grands... Les grands blockbusters de l'histoire de l'art, je les reconnais directement parce que je les connais, même beaucoup de gens, la plupart des gens même les connaissent. Après, je reconnais d'autres œuvres parce que j'ai une culture, disons, visuelle un petit peu plus étendue, donc il y en a certaines que je reconnais aussi de visu. Mais après, c'est juste que je reconnais le fait que c'est une vraie œuvre et après, je me dis, ok, là, ça m'évoque, le style de telle époque, de tel pays, quoi. On dirait, une nature morte hollandaise du XVIIe. Bon, et là, du coup, je regarde un petit peu les différents objets, par exemple, qu'il y a dans la nature morte. Je vais taper deux de ces objets-là en tapant Still Life Painting Hollande 17e, enfin 17th century dans Google. Et après, je déroule la page et généralement, ça tombe. Et je finis par la trouver. C'est parce que j'arrive en fait à mettre ces mots-clés en observant les œuvres que je parviens à identifier les œuvres assez vite. Mais du coup, non, je découvre plein de nouvelles œuvres, il y en a plein. Et pour répondre à ta deuxième partie de question, les œuvres sont vraiment pas toujours connues, très loin de là. En vrai, c'est même plutôt l'inverse. Dans ce que j'ai pu observer, en tout cas, dans les 200-300 jeux que, dans lesquels j'ai catalogué des œuvres. Généralement, c'est plutôt des œuvres pas très connues. Enfin, moyennement connues, en général, pas très connues. Et après, voilà, il y a quelques gros, comme je disais, blockbusters de l'histoire de l'art qu'on retrouve assez fréquemment. La Judith et Holoferne de Caravage, que j'ai déjà évoqué, elle est très souvent présente, notamment dans les jeux d'horreur. Le Saturne de Goya, je sais pas moi, l'Escarpolette de Fragonard, des trucs dans ce goût-là. La Joconde, pas trop, curieusement, mais on la voit quand même de temps en temps, mais elle n'est pas là tout le temps. Donc, voilà. Et ensuite, pour ce qui est des raisons d'intégrer les œuvres, pour les développeurs, elles sont vraiment multiples. C'est vraiment très 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 varié. Bon, moi, j'ai encore besoin de faire des recherches là-dessus, mais globalement, ça peut aller du simple faire du remplissage pour donner, enfin, comment dire, intégrer du décor dans une pièce, à renforcer une ambiance. L'œuvre peut aussi jouer le rôle de marqueur historique ou géographique, par exemple, suivant ce qu'elle représente ou suivant l'époque à laquelle elle a été peinte. Exemple, dans le second Assassin's Creed qui se passe à la Renaissance, autour de 1500, bah, la plupart des œuvres qu'on voit et celles qu'on achète aussi, il y a un système d'achat et de vente d'œuvres dans le jeu, elles sont toutes réalisées autour de 1500. Voilà, donc c'est une manière de faire un petit peu chambre d'écho chronologique, disons, par rapport au contexte du jeu. Et enfin, bah, y a aussi, voilà, ce qu'on évoquait un peu plus tôt, la portée symbolique, métaphorique des œuvres qui peuvent apporter un petit plus narratif par rapport au contexte dans lequel on peut trouver telle ou telle œuvre. Et après, d'un point de vue purement pratique, je pense que ça représente aussi un gain de temps pour les développeurs et développeuses d'intégrer des œuvres réelles dans un jeu. C'est-à-dire que la plupart des œuvres, en tout cas, anciennes, pour aller vite, c'est-à-dire les œuvres jusqu'au début du 20e, disons, à peu près, jusque fin 19e, sûr, c'est des œuvres, elles sont toutes dans le domaine public maintenant, elles sont toutes libres de droit, et la plupart des musées qui les conservent laissent en libre accès la numérisation de ces œuvres sur leur site. Et du coup, les développeurs et développeuses s'en emparent et les intègrent dans leur jeu. Ça va vite, c'est des œuvres qui sont... Il y a toute une variété de sujets qui peuvent être présents dans ces peintures. Du coup, voilà, suivant, ils peuvent faire leur sélection par sujet. Pour décorer, j'en sais rien, moi, un salon dans un manoir, bah voilà, ils prennent quelques natures mortes, un ou deux paysages, un portrait, paf, voilà, il y a un décor de salon de manoir. C'est aussi simple que ça. Ça permet de gagner du temps plutôt que de, j'imagine, pour eux, composer une dizaine d'œuvres, faire bosser un concept artiste pendant une semaine sur 10 œuvres. Voilà, bah là, ils ont juste à aller chercher à droite à gauche, et en plus c'est gratuit, donc. Donc ouais, je pense que ils ont tout à y gagner pour le coup. Mais après, voilà, pour tous les objectifs qu'ils ont à citer ces œuvres, les développeurs, voilà, j'ai pour ambition d'un jour ou l'autre de faire des entretiens un petit peu carrés avec plusieurs d'entre eux et d'entre elles pour en savoir plus sur leur démarche, sur le moment, sur le voilà, comment ils se servent de ces œuvres, quel est le rapport qu'ils entretiennent avec ce matériau qui réemploient au sein de leurs univers.
Et clairement, il y a une volonté d'utiliser ces œuvres à la fois pour des raisons pratiques, mais aussi pour des raisons symboliques et pour accompagner le message de leur jeu. Mais est-ce que par extension, tu ne crois pas qu'il y a aussi une forme de... Ça crée forcément une médiation artistique, finalement, pour les gens qui vont y jouer, même si ce n'était pas l'intention première des développeurs, c'est que ça fait clairement des jeux vidéo un musée, finalement.
Ouais, mais je suis assez d'accord, je pense qu'il y a un enjeu. Alors, en effet, je pense pas que c'est le but des devs, à mon avis, sauf dans le cas très spécifique de jeux qui ont une vocation pédagogique. C'était le cas notamment en France, dans les années 90. Il y avait une grosse vibe jeu éducatif autour des grands peintres, notamment français, du 19e souvent. Voilà, c'était un peu la mode, et donc du coup dans ces jeux souvent on explorait les environnements des peintures, on se baladait dans des niveaux où il y avait les peintures au mur, on pouvait rentrer dedans pour explorer, voilà, il y a un truc sur Van Gogh comme ça, sur Monet, ouais, ça a été un peu la c'est un peu la mode. Et donc là, la citation de l'œuvre, voilà, porte une vision, a une portée pédagogique très claire, sachant qu'en plus c'est accompagné généralement de textes, de textes vraiment qui ont une vocation de médiation, voilà, pour apprendre un petit peu l'histoire de l'art, etc. C'est des jeux vraiment à vocation culturelle au sens le plus traditionnel du terme. Mais dans les autres jeux, en général, non, je pense pas que les développeurs, non, ils n'ont pas de volonté d'enseigner quoi que ce soit à leurs joueuses et joueurs. Mais en revanche, oui, il y a un enjeu, parce que, comme tu le dis, c'est le jeu vidéo devient une mini exposition du coup de d'œuvres véritables qui se retrouvent réunies pour des raisons diverses et variées, mais qui créent du coup voilà à un instant T et dans un espace numérique spécifique, voilà, ça crée un petit corpus qui a ses cohérences et donc et puis peut y avoir un enjeu du coup auprès des joueurs et joueuses qui s'intéressent à ça. Il peut y avoir un enjeu de médiation indirecte, disons. Il y a un exemple que moi j'aime beaucoup, que je trouve hyper touchant, c'est je l'ai plus en tête, ça doit être dans mes notes quelque part, mais c'était il y a un an ou deux, je pense, deux ans peut-être, deux, trois ans même, peut-être maintenant ça commence à dater, il y avait un joueur d'Animal Crossing New Horizon, le dernier, qui avait entamé une sorte de tour du monde des musées pour aller se prendre en selfie avec chaque œuvre présente dans Animal Crossing, dans le musée du jeu. Et là, c'est vachement intéressant, parce que du coup, il y a la présence d'œuvres véridiques dans un jeu qui motive une démarche... touristique et culturelle. Je trouve ça super chouette. Alors après, Animal Crossing, la façon dont la place des peintures est assez spécifique dans Animal Crossing, il y a un enjeu de collection, d'exposition, de patrimonialisation des œuvres qu'il n'y a pas dans la plupart des jeux où les peintures sont juste présentes au mur pour participer au décor et éventuellement à la dimension symbolique du jeu. Donc c'est assez spécifique cet exemple-là, mais voilà, ça montre quand même que la présence d'œuvres véritables au sein des jeux peuvent interpeller certains joueuses et joueurs de manière plus ou moins forte.
Et justement, t'en parlais avant, et parfois certaines œuvres qui sont visuellement tout aussi impressionnantes que des œuvres réelles sont en fait soit des œuvres originales créées par les artistes qui ont travaillé sur le jeu, donc des artworks qui sont aussi utilisés pour décorer les environnements des jeux. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te frappe, l'utilisation de ces œuvres originales, et est-ce que tu les trouves tout aussi marquantes que des vraies œuvres, et est-ce que tu as des exemples de jeux qui t'ont marqué sur ce point-là ?
Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Après, c'est pas le sujet vraiment sur lequel je me penche et que je creuse le plus, c'est vraiment celui des citations d'œuvres véridiques. Mais vu que maintenant j'ai une pratique de la capture d'écran systématique, je prends tout en photo maintenant dans les jeux, tout ce qui est accroché au mur, que ce soit des œuvres véridiques ou que ce soit des œuvres fictives, ou que sur le coup j'arrive pas à identifier, peu importe, je prends quand même. Et donc du coup je côtoie pas mal aussi les œuvres fictives et les concept art comme tu le dis. Il y a vraiment les deux cas de figure, comme tu le disais, il y a les œuvres fictives composées par les devs et les concept art réutilisés en tant qu'œuvres fictives au sein des jeux. Il y a pas mal des premières, donc des peintures fictives créées spécifiquement pour les jeux que je trouve intéressante, notamment dans un jeu qui s'appelle Call of Cthulhu, qui est un jeu donc qui reprend une base d'un récit de Lovecraft, qui est développé par, alors c'est pas Frogware, c'est les autres, c'est les deux entre Sinking, il y a deux jeux qui ont été développés quasiment en parallèle, Call of Cthulhu et The Sinking City c'est Frogware, et Call of Cthulhu j'ai oublié, c'est un studio français si je dis pas de bêtises. Je sais plus lequel c'est, pardon. Et dans Call of Cthulhu, en fait, il y a certaines peintures, par exemple, inspirées des mouvements cubistes et futuristes du début du XXe, qui sont assez intéressantes pour ça, qui ont qui font vraiment comment dire, qui font vraiment sens dans le contexte du jeu. C'est un chercheur qui s'appelle Guillaume Béchelier qui en a parlé dans un article. C'est vraiment très intéressant. Mais il y a plein d'autres jeux, hein, voilà, qui créent leurs propres œuvres. La série des Silent Hill, il y a des peintures très connues. Pyramid Head, il y a une peinture très connue de Pyramid Head dans la série des Silent Hill. Plus récemment, je sais pas, Lies of P ou même Blasphemous. Voilà des œuvres qu'on voit dans Blasphemous, ces grandes peintures. Elles sont très inspirées des peintures du XVIIe européennes, mais ce sont des œuvres inventées de toutes pièces et elles font vraiment sens au sein du jeu. Les concept art qui sont eux repris comme des tableaux au sein du jeu, ça je trouve ça vraiment chouette et assez intéressant à observer parce que c'est un triple avantage pour les devs, à mon sens. D'une part, c'est des œuvres qui collent parfaitement à l'ambiance et à la DA, ou en tout cas à la vibe, on pourrait dire, du jeu, nécessairement, parce que c'est ces mêmes œuvres qui ont participé à créer son univers. Ensuite, elles sont souvent très belles et très crédibles aussi, parce qu'elles ont été réalisées avec beaucoup de soin pour les besoins de la production. Et enfin, ça représente, là encore, un gain de temps énorme pour les devs, parce que du coup, c'est tout le temps de travail qui était nécessaire pour la production d'un concept art n'est pas réinvesti pour créer une nouvelle œuvre. Le concept art est directement réintégré dans le jeu. Il y a plusieurs jeux qui font ça, la série des Hitman le fait, The Last of Us, ils le font aussi. J'aime particulièrement Dishonored aussi, le travail d'Arkane là-dessus est assez bluffant dans la série des deux Dishonored, et notamment dans le 2, qui est celui dont je me souviens le mieux, parce que c'est celui que je l'avais refait il y a quelques années. Et ouais, dans les œuvres de Dishonored, ils ont des concept artistes assez merveilleux qui avaient travaillé avec eux sur ces deux volets, et ouais, dans là pour le coup, ils font plus ces tableaux vont vraiment étendre l'univers fictif du jeu en représentant des lieux et des événements qu'on va pas forcément côtoyer au cours de l'histoire, mais qui vont étendre la narration un peu plus loin. Ça va créer vraiment un effet de monde. Je pense notamment dans Dishonored 2 à toutes les peintures qui représentent les légendes de l'île sur laquelle se passe le jeu. C'est, je sais plus comment elle s'appelle, c'est Konos, ou quelque chose comme ça, je crois que c'est Konos, et voilà, ça représente des légendes de Cerkonos, c'est ça? Ouais, je sais.
Je crois que c'est...
D'accord. En tout cas, voilà, il y a un petit groupe de peintures.
Gristol aussi, il y a deux.
C'est les légendes de cette île, avec des grands monstres marins, des êtres fantomatiques, etc. Qui, rien n'est expliqué, on n'en sait pas plus, mais c'est des images qui créent, qui étendent l'imaginaire du jeu par leur représentation, et en plus de ça, elles sont absolument superbes. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment un... Pour moi, c'est parmi mes préférés, en tout cas dans le champ du jeu vidéo, celle des deux Dishonored. Ouais.
Ouais, ok. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi pour y avoir joué. Clairement, artistiquement, c'est très impressionnant. Et juste pour préciser, Call of Cthulhu, c'est bien développé par un studio français. Je crois que c'est Cyanide qui s'en est occupé. Voilà.
Oui, voilà, c'est Cyanide. Merci beaucoup.
Et enfin, tu l'as brièvement évoqué plus tôt dans cet entretien où tu disais que tu aimerais... discuter justement avec des développeurs et j'imagine des artistes. Est-ce que justement c'est parce que tu aurais pas toi aussi envie de faire de la recherche, ou en tout cas de rendre ce projet là un peu plus académique, un peu plus universitaire, ou est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te traverse l'esprit?
Ouais, tout à fait, c'est quelque chose que c'est pas que je viens de la recherche, mais parce que j'avais entamé une thèse il y a longtemps, j'avais juste fait une première année, j'étais pas dans un bon contexte pour le faire, je savais pas trop où j'allais, je savais pas trop ce que je voulais faire, bref, j'ai fini par laisser tomber, mais j'aimais beaucoup la recherche que j'avais entrepris auparavant en histoire de l'art, j'ai fait plusieurs masters, etc., j'ai beaucoup aimé ça, et c'est quelque chose que je continue de suivre, notamment dans le champ des game studies. J'aime bien lire un petit peu de recherche sur les sujets qui m'intéressent, de manière assez modeste, hein, toutefois, bien sûr. Et c'est vrai que ce sujet-là, des citations d'œuvres d'art dans les jeux vidéo, il me suit maintenant depuis pas mal de temps. Je pense qu'il y a un vrai sujet à creuser, même plusieurs sujets qui peuvent être creusés dans cette thématique, parce qu'il y a beaucoup de choses, et donc je pense qu'il y a largement de quoi mener plusieurs projets de recherche. Et voilà, je commence à me dire que j'aimerais bien tenter de nouveau l'aventure de la recherche, potentiellement dans le cadre d'une thèse. C'est très hypothétique encore pour l'instant, hein, comme projet, mais voilà, l'idée fait doucement son petit bonhomme de chemin. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Ça reste, voilà, encore une fois, assez hypothétique pour le moment, mais à terme, voilà, cette question des entretiens avec les devs ou les directeurs artistiques, je sais pas, des jeux où il y a des citations, c'est quelque chose que j'imagine plutôt dans ce contexte-là, dans le contexte d'une recherche un peu sérieuse, un peu carrée, universitaire, dans laquelle je suis accompagné par des personnes dont c'est le métier de chercher, quoi, parce que je commence à avoir pas mal de données, avoir quelques idées, pas mal de pistes. Voilà, j'ai besoin d'être cadré.
Ok, très bien. Bah, on te souhaite que tes idées de projet se concrétisent, hein, et que tu trouves ce que tu veux, dans quelle direction tu veux aller. Et enfin, pour finir, une dernière petite question, on va dire bonus. T'es pas obligé d'y répondre, hein, mais c'est pour un peu pour la provoque. Mais à ton avis, est-ce que les jeux vidéo, c'est de l'art? Est-ce que c'est une question qui t'anime au quotidien?
Alors, la question en elle-même est, ouais, je trouve la question intéressante. Pas tellement pour le fait d'y répondre, mais parce que c'est plutôt ce qu'elle, comment dire, c'est ce qu'elle recouvre que je trouve intéressant. Ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tellement la. En fait, déjà, je pense que c'est pas une question qui se répond via l'histoire de l'art. Je pense pas que ça soit l'histoire de l'art ou l'esthétique qui réponde à cette question, mais plutôt, c'est plutôt, je pense, le travail de la sociologie. La sociologie notamment de la culture, et parce que c'est tout le aucune discipline en fait n'est artistique en soi, c'est plutôt enfin, c'est ce que nous explique la sociologie de l'art et de la culture, hein. C'est que l'art se définit par et se crée et s'organise par tout un réseau d'intermédiaires culturels, d'instances de légitimation qui vont, voilà, faire en sorte que telle ou telle discipline va devenir plus légitime, plus estimée, etc., etc. Bref, ça, ça relève de la recherche en sociaux. Mais ce qui m'intéresse surtout dans la question du jeu vidéo et de l'art, c'est la question des discours. C'est qui dit que le jeu vidéo c'est de l'art, qui dit que ce n'en est pas, et quels sont les enjeux pour ces différents acteurs, en fait. C'est ça que je trouve vraiment... que je trouve vraiment le plus passionnant en fait dans cette question-là, parce que voilà, suivant l'énonciateur, ça sera pas la même chose pour un joueur, pour un éditeur, pour les pouvoirs publics, que de dire que le jeu vidéo c'est de l'art. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant. Après, voilà, c'est vrai que j'ai quelque chose dont je peux lire des choses sur cette question, me renseigner sur la question, mais moi après c'est pas mon domaine de recherche, disons, mais je trouve ça chouette. Sur ce sujet-là, je recommande notamment les plusieurs articles qu'a pu faire la chercheuse Marion Coville, qui a vraiment étudié la place du jeu vidéo comme en tant que bien culturel, notamment dans les discours officiel en France, et c'est vraiment passionnant comme thématique.
Très bien, bah, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions, c'était super intéressant.
Bah avec grand plaisir, merci à toi.
Mais ne partez pas, parce que l'entretien continue après la deuxième pause musicale. Nous écoutons Night Springs, écrite par Yasmin Seman, Lennox Beatmaker, Yurek Reunumaki, Sani Kurkisuo et Sam Lake, et interprétée par Kera pour l'OST d'Alan Wake 2. We'll be right back. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Jean pour la suite de l'entretien. Alors Jean, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce morceau de Alan Wake 2 ?
Je l'ai choisi parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce que j'ai fait Alan Wake 2 il n'y a pas très longtemps. Je suis un peu à la bourre sur mes sorties comme souvent. Et j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup apprécié le jeu et j'ai été... En fait, j'adore le morceau d'un point de vue purement musical. Je sais pas, je le trouve chouette, il me donne le smile, il me donne envie de danser, je le trouve vraiment cool, je trouve qu'il est assez catchy. Et surtout, je l'ai trouvé intéressant dans le sens où il m'a complètement pris au dépourvu. C'est un morceau qui fait partie des morceaux, si je dis pas de bêtises, de fin de chapitre dans le jeu, où c'est les morceaux qui tournent sur ces fonds. À l'écran, il n'y a pas grand-chose, il y a juste des fonds un petit peu brumeux. Voilà, ça sépare les différents chapitres du jeu. Et... Alors je sais plus exactement après quel moment il arrive, mais je trouvais qu'en fait le shift d'ambiance qu'amène le morceau m'a tellement surpris que je sais pas, ça, il m'a aussi marqué pour ça. Donc c'est les deux aspects du morceau que j'apprécie, c'est déjà sa musique en elle-même et cet effet de surprise qu'il a créé chez moi quand j'ai joué au jeu.
Merci à Jean et Maxime pour l'entretien. Et maintenant, il est temps de lancer la chronique de Tizona qui va nous parler des récentes représentations du handicap dans les jeux vidéo.
Aujourd'hui, j'aimerais me pencher un peu plus sur les jeux dans ce qu'ils ont à raconter, dans ce qu'ils montrent et par extension ce qu'ils renvoient. L'histoire de la représentation du handicap, elle est assez mutuellement partagée et transverse à tous les médiums. C'est pas surprenant, c'est même assez normal qu'un grand nombre de poncifs issus de la littérature, du cinéma et plus globalement des productions audiovisuelles aient atteint le jeu vidéo. Et ce, très tôt. Il suffit de penser aux apparences cyborg qui sont apparues très tôt dans le jeu vidéo, par exemple la création du personnage de Megaman. Cette représentation, ou plutôt ces représentations, elles ont une immense histoire et des imaginaires qui n'ont pas spécialement changé malgré les années qui se sont écoulées. Certains préjugés ont la peau dure, surtout quand ça fait tirer la larme à l'œil de la grande majorité de son public, généralement valide, et que cette catharsis engage émotionnellement une base de joueuses. Alors je vais y aller assez franchement, mais dans l'héritage de l'imaginaire du handicap pleinement assumé par le jeu vidéo, je dirais qu'il y a deux catégories. Il y a le handicap gentil et le handicap méchant. Alors, je vais m'expliquer, on y trouve aussi plusieurs sous-catégories, mais si on devait le formuler autrement, le jeu vidéo il s'appuie très majoritairement sur deux socles, la partie cyborg, donc l'être d'origine souvent dysfonctionnel, rendu plus puissant grâce à sa différence avec les autres, généralement ce sont des implants, ce sont des augmentations corporelles, etc. Et à côté, ce que j'appelle la leçon de vie ou la victime, le personnage qui va déployer un narratif autour de sa souffrance, car oui, un handicap, ça fait toujours souffrir, c'est toujours triste, et ce personnage est naturellement plus faible. Appliqué à la dichotomie classique qu'on retrouve très souvent autour de ce sujet, on a soit le cyborg gentil qu'on va souvent jouer car c'est super cool de jouer un cyborg trop fort avec des capacités qu'aucun humain a, d'être un parent de la technologie du progrès dont on apprécie exceptionnellement la différence, d'ailleurs souvent c'est des personnages masculins et blancs, à la surprise de pas beaucoup de monde, soit on a le cyborg méchant, l'antagoniste au statut quasi divin, que les personnages principaux ne peuvent pas encore battre sans moult péripéties parce qu'il est différent, il est plus fort naturellement. Sur cette partie du thème cyborg, on a une approche qui est un peu plus axée gameplay. D'un autre côté, l'approche beaucoup plus narrative, avec le tragédisme déployé autour d'un personnage usuellement gentil. On pense souvent à un personnage secondaire qui est fragile, qu'on va vouloir protéger, ou qu'à contrario, on peut avoir aussi la surprise et la découverte que oui, le grand méchant qui a un handicap a eu une vie drôlement difficile et c'est ce qui l'a rendu ainsi. Je pense par exemple à Victor Marchenko, l'antagoniste de Deus Ex Mankind Divided. C'est un personnage qui est augmenté, qui est greffé jusqu'aux oreilles, il a un passé tragique, mais on l'apprend qu'après qu'il ait déclenché des actions terroristes grossièrement instrumentalisées par un groupuscule suprémaciste et eugéniste dans lequel le méchant se retrouve d'une manière ou d'une autre, malgré des valeurs à peu près intégralement opposées aux expériences vécues par le dit personnage. Car oui, le personnage handicapé rejeté par la société, quand il est en colère, il ne fait attention à rien, c'est plus qu'un outil, une arme, d'autant plus si c'est un cyborg, et seul le handicap compte, surtout quand ça le rend plus fort, et l'humain n'existe plus. Alors pourquoi je parle de tout ça? C'est Tout simplement parce qu'en arrivant petit à petit vers la fin de l'année, je regarde un peu derrière moi la pléthore des titres divers sortis au courant de ces deux dernières années, et surtout les jeux visibles tant qu'à faire. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, comme je l'ai un peu amorcé le mois précédent, je vois tout simplement peu de choses, si ce n'est une dégradation d'à peu près tout ce qui touche au handicap à l'intérieur ou à l'extérieur des jeux, comme j'ai pu en parler le mois dernier, et très certainement j'en parlerai le mois prochain. Je vois que le trouble du handicap qui fait peur, qu'on trouvait déjà entre autres dans Bloodborne il y a 10 ans, avec German et son caractéristique, si je puis dire, fauteuil roulant, se retrouve encore quand Sandfall partage, il y a quelques mois, l'asset sonore de la canne d'un personnage antagoniste dans Clair-Obscur Expédition 33, cadeau adressé aux fans, qui a suscité à la fois l'enthousiasme et la terreur envers ce cliquetis caractéristique. Car oui, autour du handicap, il y a aussi une sémantique. Elle passe notamment par les prothèses, greffes, implants, comme c'est souvent le cas dans des jeux où on joue un personnage cyborg ou adjacent à une imagerie cyborg, mais aussi par du matériel médical. Les cannes, comme les fauteuils, ce sont des éléments qui sont aliens au corps tel qu'on l'imagine. Ça vient altérer l'image que l'on en a, faire dissonner les mouvements entre guillemets normaux d'un entre guillemets humain normal. Et ce motif, on le retrouve finalement aussi porté par Chronos, l'antagoniste principal d'Hades 2, sorti récemment de son Early Access, personnage qui porte sa canne tout au long de l'intrigue, qui devient d'ailleurs son arme. C'est assez dommage d'avoir cette représentation qui est assez classique, quand à côté, par exemple, on a une dépiction de Héphaïstos plutôt originale en fauteuil, qui est en lien avec, avec son savoir-faire. Je vois encore tant de récits cette année de personnages handicapés, malades. Je n'expliciterai pas plus pour ne pas divulgâcher, mais ce sont des personnages qui sont encore utilisés comme des ficelles narratives, qui ont pour objectif de créer des situations de tension émotionnelle chez le joueur ou la joueuse, tout en négligeant la dignité et en dépossédant ces personnages de tout ce qui n'est pas leur handicap, d'eux-mêmes, somme toute. Mais les difficultés que vivent les personnages quand leur handicap est impliqué, c'est jamais par le fait de questionner la société dans laquelle ils vivent. Car même la fiction, la société est normée et ne veut pas d'eux, c'est donc eux que le récit remet en cause. Car oui, le handicap c'est une condition physique, cognitive, motrice, mais c'est surtout un statut, une place dans la société. Le handicap est, dans notre société capitaliste, une anomalie, quelque chose qui ne fond pas dans la toile normée de notre société. Le handicap devient soit un obstacle, soit une source d'attention à part entière. Il devient une leçon de vie, un récit. Et le handicap dans le jeu vidéo rend souvent plus fort ou plus faible. Il rend rarement normal, d'égal à égal avec les autres personnages valides. Et en ça, c'est quand même assez dommage pour des œuvres de fiction. Quand c'est au cœur du sujet, ce n'est que difficilement réaliste ou désintéressé. Les personnes possédant des TSPT, des troubles de stress post-traumatique, qu'on connaît plus souvent sous le nom de PTSD, ou des TDI, troubles dissociatifs de l'identité, deviennent des baguettes magiques à produire des tragédies narratives. Hellblade: Senua's Sacrifice a été écrit et réalisé en partie grâce à l'aide de spécialistes, mais surtout de personnes concernées par des traumatismes psychiques. Alors c'est bien d'avoir été se renseigner, hein, c'est toujours mieux. Je suis pas la plus à même de dire si c'est bien ou pas, je suis pas concernée, j'ai vu à peu près autant de gens dire que c'était bien que de gens dire que ça ne l'était pas. Cependant, ça reste une expérience dont l'identité est ludique, et l'expérience a été vendue comme multisensorielle, et qui se construit autour d'une condition psychique, celle du personnage principal, et ça crée et ça contribue à un imaginaire établi depuis longtemps autour des conditions psychiques, notamment liées au PTSD. Dans tout ça, ces récits parlent à qui? En premier, ils parlent à la masse dominante qui joue, c'est-à-dire aux personnes valides. Il devient plus facile de créer du matériau à histoire et à émotion pour des gens qui sont étrangers à ces vécus. Après, je ne cherche pas personnellement à tout aseptiser, à dire que les handicaps ne devraient rien raconter. Les handicaps racontent des histoires. Ils racontent le monde qui les entoure. Les guerres ont marqué beaucoup de personnages d'Overwatch, qui pour le coup, à défaut de briller par son histoire de jeu, a un casting plutôt varié et inclusif, car beaucoup de ces personnages sont handicapés, avec différentes conditions. Les guerres créent des victimes, on ne le sait que trop bien, ou peut-être pas assez, qui doivent vivre avec des stigmates de ces conflits, qui peuvent être représentés par des handicaps. Il est naturellement important d'en parler, si tant est qu'on y soit aussi sensible sur un tas de pixels que dans la réalité véritable. Mais les handicaps, les augmentations, le fait de rapprocher, de transformer en cyborg certains handicaps, ce n'est pas que la résultante de conflits. Non, on peut naître handicapé et très bien vivre avec. C'est fugace, mais jouer Hayley Cooper, personnage malentendant dans Spider-Man 2 qui communique sans difficulté en langue des signes avec Miles Morales, c'était plutôt rafraîchissant. On peut traverser aussi une période où on a un handicap ou une condition psychique particulière sans forcément la garder à long terme, comme c'est le cas dans Céleste, qui arrive avec brio à mêler le fond et la forme dans son propos. Mais quand on cherche à trouver d'autres jeux où on peut jouer un perso handicapé qui sort de l'esthétique axée cyborg ou du narratif autour du psychique, bah ça devient assez compliqué d'en trouver même quand on est sur la scène AAA et AA. Si on gratte jusqu'à fin 2024 en termes d'actualité, je tire comme je peux pour essayer de trouver des exemples. Dragon Age Vellgarde, donc le jeu Vogue par excellence évidemment, possède un personnage qui a une jambe amputée et qui a une prothèse. Le sujet il n'est jamais vraiment abordé de son handicap, c'est vraiment très, très mineur. Et moi ce qui m'avait marqué en y jouant c'est que c'est un jeu BioWare, donc on a des romances, donc il y a la possibilité de romancer ce personnage, et ça aboutit à une scène intime avec ce personnage, et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est un sujet qui est tabou de base, l'intimité des personnes handicapées dans la vraie vie véritable, donc le voir dans un jeu vidéo, même si c'est des mineurs, je trouve que c'était assez rare pour être relevé. Bref, de tous ces exemples, je ne m'attendais pas à ce que finalement une des récentes meilleures approches, selon moi, des sujets inhérents au handicap se trouve dans Silksong. Et oui, vous ne l'attendiez pas, ou du moins pas ici. Sans entrer dans les détails, le jeu parvient à dénoncer de manière plutôt juste, je trouve, et hélas familière, les violences sociales validistes et eugénistes qui s'inscrivent dans une perspective d'oppression d'une classe pauvre, principalement, dans son univers, et parler de corps dysfonctionnels, dépendant de ressources limitées, dans le royaume sous le vernis de l'univers et de l'esthétique du jeu. Pour finir, j'aimerais, à titre personnel, voir un peu plus le quotidien du handicap dans le jeu vidéo. Pas que le combat, pas que l'histoire principale, voir à quel point ça peut être galère d'entretenir du matériel médical par exemple, comme Sekiro le fait malgré la prothèse qui intervient aussi comme un outil de jeu, ce qui montre que c'est pas impossible de faire les deux. Voir plus d'enjeux propres à des personnages avec des conditions particulières, comme une des héroïnes de Fear the Spotlight, un jeu sorti fin 2024, dont la santé passe par la gestion de son hyperventilation, qui est elle-même gérée par son usage de sa ventoline. Mais bon, proposer des dépictions que l'on souhaite intéressantes, pertinentes du handicap ou de la maladie, c'est bien. Par contre, c'est quand même mieux quand c'est accompagné par des options qui permettent à des personnes concernées d'y jouer, surtout quand on s'approprie leur vécu.
On passe au segment de la discussion autour d'une actu du jeu vidéo. Cet été a eu lieu le Summer Split, la compétition d'été de la Ligue française de League of Legends. C'est évidemment une énorme organisation qui demande beaucoup de moyens et par conséquent beaucoup de sponsors. On a le CIC, on a KitKat, on a du matériel informatique et même des Nissin Cup Noodles, des nouilles instantanées. On comptait aussi parmi les sponsors un nom qui a paru incongru, la filière céréalière, qui reversait 1€ par million éliminé à une association étudiante. Donc la filière céréalière, c'est en fait Intercéréales, le lobby français du secteur créé par la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, qui est le syndicat agricole majoritaire en France et qui pousse une vision productiviste. C'est surtout du coup orienté vers l'agriculture intensive et l'industrialisation des exploitations. Alors la filière céréalière, ça me semblait être très loin de l'univers du gaming, et du coup on imagine difficilement notre objectif que celui de redorer le blason de l'agriculture intensive auprès d'un jeune public, puisque du coup la compétition est rediffusée sur la chaîne OTP qui compte presque 800 000 abonnés. Et du coup, c'est malin de leur part, puisque l'e-sport est assez peu médiatisé, mais pourtant suivi par du coup des centaines de milliers, voire des millions de personnes globalement. Alors ok, des sponsors, on en voit de toutes sortes, mais je trouve qu'entre d'un côté une banque, un vendeur de matériel informatique ou de produits alimentaires, et de l'autre une organisation politique qui travaille activement à mettre à son profit le pouvoir législatif, il y a un grand pas. Et je trouve que ça donne à réfléchir à comment est-ce qu'on décide de cadrer les financeurs de ce type d'événement pour éviter une stratégie de normalisation, voire de valorisation d'un modèle politique sous couvert de divertissement. Alors, c'est des questions un peu compliquées, mais je me demandais, du coup, est-ce que du coup, on peut imaginer d'autres types d'autres façons de financer ce type d'événement ? Et puis, est-ce que, en fait, c'est OK de faire financer ce type d'événement par ce type d'organisation qui, quand même, sont assez particuliers et pas juste des marques de sièges de gaming, par exemple, quoi.
Là, je veux te remercier d'avoir pointé cet exemple, enfin, ce sujet, cette affaire-là, disons, parce que je n'avais pas entendu parler, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et Et comment dire, ces temps-ci, bah, là vous l'avez déjà évoqué, Maxime en a parlé, ce qui représente, ce qui est le plus disons, symptomatique, le plus représentatif de cette tendance à vouloir acquérir une forme de soft power et de s'attirer une sympathie via les investissements dans le jeu vidéo et dans des jeux vidéo populaire, souvent ben, multijoueur, notamment dans la compétition. Là, récemment, c'est l'Arabie Saoudite avec le PIF, hein, le Public Investment pardon, Fund du pays, le fonds souverain, qui récemment est en train de mener le rachat d'Electronic Arts. Ils ont depuis côté e-sport, ils ont aussi je crois que c'était en début des années 2022 je crois, ils ont racheté l'ESL, Faceit, enfin bref, ils sont vraiment très investis là-dedans et en effet il y a une forme de e-sports washing je pense de leur côté mais pour revenir sur et en fait je pense que l'ampleur du phénomène est tellement énorme que c'est pour ça que je pense que c'est représentatif, pour la question du financement des événements, je pense surtout que la question subsidiaire que ça pose pour moi, c'est quelle est la viabilité de la structure économique de l'e-sport. Parce que si jamais il y a des financeurs comme la MFNSEA qui sont présents, enfin c'est jamais tout repose. Je crois que dans mes souvenirs, parce que je regarde pas mal d'e-sport, mais je lis pas beaucoup de choses sur son fonctionnement, mais dans mes souvenirs je crois que c'est 80% de ses revenus qui sont tirés du sponsorship, enfin c'est énorme, la part est énorme, et donc avec un fonctionnement tel, entre guillemets, les organisations, les événements, les structures sont obligées de faire appel un peu à tous ceux qui veulent bien filer des thunes. Et donc je pense que ça pousse à un tel fonctionnement pousse à être peut-être un peu moins regardant sur qui fait quoi lorsque telle ou telle entité propose de sortir le chéquier, quoi. Je pense que là il y a une vraie question sur comment faire en sorte qu'il y a que la structure économique de l'e-sport soit viable, déjà pour éviter ce genre de partenariat nauséabond, mais aussi pour la pérennité du secteur, parce que je pense que sans ça, ça va... Je crois que là, si jamais je dis pas de bêtises, il y a eu un boom de l'e-sport, notamment Covid, post-Covid, etc. Enfin, post-Covid, on est toujours dans le Covid, mais post-confinement, disons. Il y a eu un peu un boom de la part des investisseurs dans les structures e-sport, les événements, etc. Et en fait, investisseurs qui aimeraient bien maintenant avoir un retour sur l'argent qu'ils ont mis. Et ben, l'argent, pour l'instant, je crois qu'il n'arrive pas. Là, c'est que des choses que je me souviens avoir lues. Il faudrait se renseigner plus en détail. Mais il y a un vrai enjeu à trouver une structure stable, je pense, au niveau des financements.
Je te remercie.
Et j'ai pas de réponse à ça parce que je sais pas.
Je te remercie d'avoir bien formalisé du coup une question intéressante et bien amenée de mes petites pérégrinations mentales autour de mais pourquoi ça m'embête ce truc. Et encore une fois, on pourrait aussi me dire que je suis peut-être pas hyper honnête parce qu'il y a d'autres lobbies qui m'iraient très bien, notamment des lobbies qui font du lobbying autour de la protection animale. C'est pas le problème que c'est des lobbies, je pense que je serais d'accord. Donc je pense qu'il y a aussi un côté pas forcément très honnête, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser, je pense, là-dessus. Enfin, en tout cas, probablement d'important, comme tu le rappelais, quoi.
Mais t'as raison sur ce que tu dis, le bon lobbying, entre guillemets, parce que moi je voyais récemment des gens qui... Il y avait par exemple ces Wizards of the Coast, les propriétaires de Magic, je crois, et de Dungeons & Dragons, qui faisaient un stream caritatif en soutien à des associations pour soutenir les personnes trans ou les personnes cuir en général, je sais plus. Et du coup, certaines personnes notaient que c'était quand même... À une époque, on disait que les gens faisaient du pinkwashing pendant le mois des fiertés, toutes les entreprises mettaient leur drapeau de la Pride, le drapeau LGBT dans leur communication, et que c'était juste... eux, c'était juste à vocation... commercial, quoi, pour se faire plus d'argent, quoi. Mais que vu le contexte politique actuel, je sais pas si c'est courageux, mais en tout cas il y avait des personnes qui étaient quand même contentes que certaines entreprises lâchaient pas l'affaire, quoi, et qu'elles continuaient, et que ça montrait peut-être qu'elles étaient plus honnête sur ce point de vue-là. Je sais pas si ça rentre exactement dans ton sujet sur la question de l'influence et du politique dans le jeu vidéo, mais il y avait voilà cet exemple-là récemment avec Wizard of the Coast qui m'avait un peu marqué, que j'avais vu passer.
Ouais, effectivement, la prise de position, des fois, elle est pas très risquée, et là, dans le contexte actuel, elle est peut-être plus authentique, effectivement, vu les répercussions qu'il peut y avoir, vu le contexte politique, ouais, effectivement.
Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up et diffusée par Radio Campus Paris. Nous remercions notre invité Jean Jouberton, les chroniqueuses Marion et Tizona, et aussi Maxime à l'entretien, Vincent pour la programmation musicale et Lazare pour la technique. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, de partager nos publications sur les réseaux sociaux et de parler de nous autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur notre Ko-fi, cela nous permettra de continuer à produire nos programmes et à vous proposer toujours plus de points de vue sur le jeu vidéo. Nous nous quittons maintenant sur Boss Theme, composé par Tim Follin pour l'OST de Plock.